Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous le répétons souvent dans cette émission, l'historien, qu'il soit amateur ou professionnel, s'évertue à trouver des jalons, des dates charnières, au-delà des périodes de transition ou bien des époques, ce qui n'est pas la même chose. Notre esprit est ainsi fait qu'il recherche des repères chronologiques ou bien des ruptures, comme si, au-delà des conservatismes, il recherchait le changement, la mutation, la transformation et le mouvement. Les changements, justement, de siècles font partie de ces repères, les changements de millénaires plus encore. Georges Duby évoquait les peurs de l'an 1000. Nous attendions, pour notre part, le bug de l'an 2000 qui n'est jamais venu. Je ne parle même pas ici des centenaires. Chaque année, le ministère de la Culture édite un catalogue des célébrations de l'année. Cinquantenaire, centenaire, bicentenaire. Les millénaires plus rares, votre serviteur n'a connu que le millénaire capétien. Il y eut aussi le Quattrocento, le grand siècle, le siècle des Lumières. Daudet, lui, qualifiait le 19e siècle de stupide. Mais qu'est-ce donc, au fond, qu'un changement de siècle et un siècle tout court ? Le grand Robert en donne la définition suivante, longue période de temps dans une première notice, avant d'ajouter période de 100 ans dont le début ou la fin est déterminé par rapport à un moment arbitrairement défini et spécialement par rapport à l'ère chrétienne. Arbitrairement défini, oui, vous avez bien entendu, nous y sommes. Au fond, tout cela n'est-il pas subjectif ? Je vous propose cependant aujourd'hui un exercice qui n'est pas une sinécure pour une émission qui s'appelle « Un jour dans l'histoire », puisque nous allons tenter de définir la naissance d'un siècle, tout simplement le nôtre, le 21e siècle. Fabrice d'Almeida, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à cette nouvelle invitation de Canal Académie. Nos auditeurs fidèles vous connaissent bien, ils peuvent retrouver dans la médiathèque de Canal Académie tous ces portraits que vous avez faits à notre micro, portraits d'aventuriers, portraits d'espions, portraits aussi des chefs nazis, puisque vous êtes avant tout un spécialiste du nazisme, historien, directeur également de l'Institut d'Histoire du temps présent, et vous venez de publier aux éditions Perrin une brève histoire du 21e siècle. Alors Fabrice, ma première question, qui est un peu une question rituelle, elle concerne la genèse de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est certes court, hein, puisqu'il fait moins de 170 pages.
Une brève histoire, oui.
Mais il est très important, il apporte une forte réflexion. Et on se doute qu'en tant que directeur de l'Institut d'Histoire du temps présent, votre réflexion va bien au-delà des conférences dont vous nous parlez et dont vous dites qu'elles sont à l'origine de cet ouvrage.
Oui, ben il y a toujours, pour chaque ouvrage, il y a comme ça un point de départ. Et au fond, quand j'ai pris la tête de l'Institut d'Histoire du temps présent, il y a eu un certain nombre de personnes pour me pousser à essayer de donner ma définition de l'histoire du temps présent. C'est une notion ancienne qu'on a déjà discutée sur Canal Académie, l'histoire du temps présent, une notion qui remonte aux années 70. Et il s'agissait en gros de réfléchir à la Deuxième Guerre mondiale et à ses conséquences dans le long terme. Et au fond, il y a eu un certain nombre de gens pour dire ben, cette notion, peut-être qu'elle a atteint son point d'utilisation maximale et qu'il faudrait passer à autre chose. Et moi, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est une notion tout à fait importante parce qu'elle pose le problème de la question du rapport subjectif de l'homme au temps et de l'homme aux événements. Et précisément, la notion de 21e siècle est une notion tout à fait intéressante puisque, vous l'avez dit, il y a un rapport à l'arbitraire, un calendrier, une donnée objective sur laquelle les hommes se sont mis d'accord pour essayer de compter, pour essayer d'avoir un compute, une base à partir de laquelle situer les différents événements qui peuvent se dérouler. Et puis finalement, lentement, cette notion devient une notion elle-même porteur de valeur, porteur d'une signification, porteur de sens, et qui est censée représenter une époque. Et c'est vrai que le 18e siècle a commencé à se penser comme tel. Le 19e siècle, je crois, très fortement a eu conscience de lui-même. On parle de l'homme du 19e siècle dès le début du 19e siècle. On a le sentiment qu'il y a une nouvelle ère qui s'est déroulée et c'est sûrement lié au fait que la Révolution s'est située à la fin du 18e siècle et donc on a eu l'impression qu'elle a introduit une nouvelle étape. Et puis, il y a eu le 20e siècle, celui dont je suis issu, qui a eu le sentiment d'être peut-être le siècle des violences absolues. Mais pour revenir à votre commentaire, vous avez dit « Je n'ai connu qu'un millénaire, le millénaire capétien ». Mais non, Christophe, vous en avez connu deux. Vous avez connu l'entrée dans le troisième millénaire. Et ça, c'est une autre des choses qui m'a fasciné en commençant à travailler sur le livre, c'est que dans les années 90, tout le monde parle de l'entrée dans le troisième millénaire. On pense qu'il va y avoir une sorte de changement de millénaire. Et puis, depuis que nous avons franchi l'an 2000 et l'an 2001, eh bien, les gens parlent davantage du 21e siècle et oublient qu'effectivement, nous sommes dans le troisième millénaire.
À quoi sert, Fabrice, de couper l'histoire, de chercher des jalons ? Parce qu'on le dit souvent ici, est-ce que toutes les périodes ne sont-elles pas, au fond, des périodes de transition ?
Alors, c'est vrai qu'on peut prendre tout moment comme un moment de transition. Mais moi, ce qui m'intéressait fortement, c'est qu'il s'est passé en 2001 une série d'événements qui ont été considérés comme le signe, non pas d'un changement de siècle, mais d'un changement d'époque. Et quand on parle du 21e siècle, on parle de quelque chose qui a du sens, donc on parle d'une époque. Mmh. Et ce qui m'intéressait, c'était de me demander dans quelle mesure c'était effectif. Dans quelle mesure, en janvier 2001, quand il y a cette grande réunion des altermondialistes à Porto Alegre, au Brésil, qu'on crée le premier forum social mondial, dans quelle mesure est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère ? Et dans quelle mesure, le 11 septembre 2001, quand les deux tours du World Trade Center s'écroulent, on est rentré dans autre chose. Et c'est vrai que pour beaucoup d'observateurs, le 11 septembre a été considéré comme une date rupture, l'entrée dans un nouveau siècle. Un nouveau siècle, une nouvelle guerre. Un peu comme on en avait parlé pour la Première Guerre mondiale, qui était censée signer l'entrée dans le 21e siècle. Donc c'était ça. L'idée, c'est essayer de comprendre notre époque. Je suis historien du temps présent, donc j'essaie de comprendre l'époque qui est la nôtre avec mes outils de travail, qui sont l'histoire, avec toutes les méthodes, toute l'épistémologie qu'il y a derrière cela. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a des évolutions, je suis convaincu que la notion de temps et de durée joue un rôle fondamental. Donc chaque époque peut se penser comme une transition, et en même temps, on doit toujours questionner les dates qui nous sont présentées comme des ruptures.
Alors, on va revenir au cours de cette émission sur ces différents événements que vous évoquiez, au-delà même du géopolitique, de la stratégie, etc., des événements politiques purs comme le 11 septembre 2001, mais je voudrais continuer cette réflexion sur le temps et sur l'histoire. Est-ce que notre conception du temps varie ? J'enfonçais une porte ouverte sur les peurs de l'an 1000 et la peur de l'an 2000. Les hommes réagissent-ils de la même manière à toutes les époques à l'égard du temps ?
Alors, c'est évidemment extrêmement à la fois subjectif. Bon, y a eu quantité de travaux là-dessus. Il y avait un moment où le temps était orienté. Rappelez-vous, le temps religieux, par exemple, du Moyen-Âge, qui est rythmé, qui est tourné vers le temps divin, vers l'idée qu'à un moment donné, il y aura la parousie, il y aura l'accomplissement, il y aura quelque chose comme une fin du monde qui permettra d'accomplir la destinée de chacun. Nous, nous sommes rentrés dans un autre temps. Et je crois que c'est l'un des intérêts très importants à la fois de Claude Lévi-Strauss et à la fois d'un historien qui s'appelle François Hartog, d'un anthropologue qui s'appelle Gérard Lanclus, qui ont créé cette idée de régime d'historicité. Au fond, Lévi-Strauss était parti de l'idée que le rapport au temps de l'homme peut être conditionné par deux logiques. Une première logique qui est ce qu'il appelle l'histoire froide. Au fond, c'est la mythologie, une histoire qui est toujours pareille, qui est éternellement recommencée. Et puis ce qu'il appelle l'histoire chaude. L'histoire chaude, c'est quoi ? C'est cette histoire qui se nourrit d'événements, d'actions, d'activités, et dont on retient chacune des composantes. C'est l'histoire un peu à l'occidentale, celle dans laquelle nous sommes rentrés, on peut dire quelque part au XVIIIe siècle, et qui s'est fortement affirmée méthodologiquement au XIXe siècle. Une histoire avec des événements, des logiques, on n'oublie rien, il y a une espèce d'accumulation qui se produit. Et ce que disait François Hartog, c'est que quelque part à la fin des années 80 et au début des années 90, on note un refroidissement de l'histoire, c'est-à-dire une montée des mythologies historiques. Et tous les conflits de mémoire, selon lui, étaient liés à cette logique-là. On était en train d'opposer non plus des histoires, mais des mythologies. Et au fond, moi, j'ai le sentiment que depuis 2001, on a affaire à une phase de réchauffement de l'histoire. C'est-à-dire qu'on en revient à des discussions extrêmement fortes sur l'interprétation des événements, et cela, non pas en fonction uniquement de méthodologie, mais bien en fonction d'informations, d'accès à des documents nouveaux, d'accès à des témoignages nouveaux. Et ça, c'est ce que j'essaye de réfléchir, d'analyser dans le livre, ce rapport un petit peu particulier au temps et à l'histoire, dans une phase que je crois être une phase de reconstruction de la rationalité historique.
Donc quelque chose de neuf, vous écrivez, dès les années 1980 est montée en puissance l'impression que le monde va basculer dans un univers totalement neuf. Tout ce que vous dites participe de cette nouveauté ?
Oui, particulièrement après les années 2000, parce que les années 90, pour moi, sont vraiment un moment intermédiaire. Pourquoi ? D'abord, il s'est passé en 89, 90, 91, un événement phénoménal qui est la chute du communisme.
Nous allons y revenir.
Bon. Et cet événement-là fait qu'à un moment donné, j'allais dire, le sens de l'histoire se trouve rompu. On a vécu pendant pratiquement 40 ans, 50 ans, 70 ans si on a envie d'insister là-dessus, avec l'idée qu'il y avait une lutte dialectique entre deux systèmes. Système capitaliste d'une part, système communiste de l'autre. À un moment donné, il n'y a plus de système communiste. Et donc, pour une bonne partie des observateurs, il n'y a plus d'opposition historique. Et c'est ce qui conduit en particulier Fukuyama à évoquer cette notion de fin de l'histoire. Francis Fukuyama, ce penseur américain. Donc, il y a eu un moment pendant lequel, au fond, j'allais dire, il y avait une espèce de désorientation au sens fort. Il n'y avait plus d'orientation de l'histoire. Elle n'avait plus, en quelque sorte, de sens en termes de grande lecture idéologique et dialectique. Et puis après 2001, on a une reconstruction de ça. On a une reconstruction de ça avec cette espèce de lutte mythifiée hein, entre l'Occident et l'Orient. Et donc le but, ben, c'était aussi de critiquer cette vision-là, une vision qui fait de 2001 au sens 11 septembre la naissance d'une nouvelle époque basée sur une nouvelle guerre.
On parlera davantage de moments décisifs plutôt que de rupture. Vous n'aimez pas trop le terme de rupture. Parce que Jean-Christian Petit-Fils, par exemple, considère que la date de 1787, les années 87-88 sont plus importantes que la date de 1789. On parle de 1914 comme la naissance du XXe siècle, mais on pourrait, d'un point de vue géopolitique, placer 1914 dans la continuité du conflit franco-allemand de 1870. Donc la rupture, là encore, est subjective.
Non seulement elle est subjective, l'événement est important, mais ce que je trouve d'assez gênant, quand on se contente de s'arrêter à l'événement et donc à cette espèce de logique de la rupture, c'est qu'au fond, on perd de vue un certain nombre de phénomènes structurels qui se déroulent à plus long terme, à 30 ans, 40 ans, peut-être 50 ans. Et quand on veut réfléchir sur la fin du XXe siècle, quand s'arrête le XXe siècle ? Est-ce qu'il s'arrête en 89, en 90, en 91, en 94 avec le génocide du Rwanda ? Si le XXe siècle et le siècle des génocides, à ce moment-là, il faudrait aller jusque-là. Est-ce qu'il faut arrêter le XXe siècle au moment où s'arrête la vie politique des hommes du XXe siècle? Ou est-ce qu'il faudrait... Donc, vous voyez, il me semble que si on veut essayer de penser les dossiers qui montent, si on veut essayer de penser son époque, quels sont les préjugés que nous avons? Quels sont les dossiers importants que nous avons en cours et qui seront encore là dans 50 ans? À ce moment-là, on est obligé de s'extraire justement de la logique d'événements et d'essayer d'observer, de questionner des gens, de questionner des livres, de regarder des organisations. Et à ce moment-là, on voit se dessiner quelques dossiers particuliers dont effectivement le changement ne se situe pas du tout au tout début des années 2000. Je vais prendre un exemple tout simple. La question par exemple de la conquête spatiale. Conquête spatiale, on peut commencer avec le premier Spoutnik à la fin des années 50. On peut commencer avec l'homme qui marche sur la Lune. 1969. Ou alors, on peut commencer en 2004, au moment où, pour la première fois, une sonde spatiale atteint les confins du système solaire et sort même de l'héliosphère, hein, qui est une des couches de particules, une des dernières couches de particules où les particules de solaire rayonnent. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait dire, voilà, 2004, on sort du système solaire. Ou sinon, on pourrait dire, 1969, on change de planète. Ou sinon, on pourrait dire, 1957, on atteint l'espace. On a, pour la première fois, atteint la capacité de s'extraire de la Terre. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ce type de choses, ça nous permet de penser qu'il y a des étapes, qu'il y a un mouvement, et qu'il y a un mouvement qui est fait pour durer. Ça nous permet de dessiner presque une courbe. Mmh. Et au fond, quand on veut réfléchir en termes d'histoire au sens fort, c'est-à-dire se servir de cette discipline qui consiste à étudier le passé, pour comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons, pour comprendre ce que nous faisons et aussi pour comprendre où nous allons. Ben, si on veut faire ça, on est obligé de penser quelque chose comme une courbe.
Je reçois Fabrice d'Almeida, auteur du livre « Brève histoire du XXIe siècle hein, », un ouvrage paru chez Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant, à tout de suite.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Fabrice d'Almeida, historien, directeur de l'Institut d'Histoire du temps présent, qui nous offre une réflexion sur la fin du XXe siècle et le XXIe siècle. Alors, votre ouvrage, Fabrice, hein, paru chez Perrin, « Brève histoire du XXIe siècle », est un ouvrage, j'allais dire, d'histoire totale. Alors, je sais que pour la profession, la notion d'histoire totale signifie quelque chose de bien précis que vous allez nous définir. Car au fond, vous vous placez sur tous les points de vue. Il n'y a pas que l'histoire politique. Et alors oui, vous parlez de 1989, la chute du communisme, hein, c'est le premier événement que vous donnez. Mais vous parlez aussi d'écologie, vous parlez aussi de la vie des médias, vous parlez aussi de sociologie.
L'objectif, c'était d'essayer d'inviter chacun à réfléchir, parce que à réfléchir sur ce que nous avons vécu et à la façon dont nous l'interprétons. Donc, essayer de réinsérer notre actualité qui, à un moment donné, devient du présent et devient en quelque sorte de l'événement historique. Essayer de réinscrire ça dans une lecture temporelle. Mmh. Voilà. Alors, il y avait deux logiques, deux choses dont je voulais m'écarter. Parce qu'il y a d'autres métiers, en quelque sorte. Le premier métier, c'est le métier de géopoliticien. Et si vous regardez les livres de géopolitique, il y en a plusieurs qui sont parus l'an passé, depuis 2 ans. Je pense notamment à, par exemple, Thérèse Delpech, qui avait fait un très, très beau livre. Si on prend ces ouvrages-là, il y a une logique historique. Elle partait de 1905 pour repenser 2005 et pour penser 2105. Voilà. Donc, elle aussi, elle avait cette logique-là. Mais ce qui me frappe dans le discours géopolitique, et c'est une constante, vraiment, c'est une certaine dimension catastrophiste. C'est-à-dire qu'on construit les scénarios d'évaluation à partir du pire, alors en principe pour le prévenir, mais en même temps, on se cantonne dans un discours qui, au fond, m'inquiète un peu par son côté, j'allais dire, prophétie autoréalisante. C'est-à-dire qu'une fois que le conseiller stratégique dit « il risque d'y avoir une guerre avec la Chine, donc armons-nous », donc on va s'armer en pensant qu'il risque d'y avoir une guerre avec la Chine, les Chinois, ayant cela, vont s'armer à leur tour en se disant qu'il risque d'y avoir une guerre, etc. Vous voyez l'espèce de jeu que ça veut faire. Donc, s'extraire de ce discours-là, qui est assez professionnel, qui est assez savant, et au fond, qui ne me paraît pas être la seule composante du discours historique. Et puis, il y avait une deuxième écueil à mes yeux, qui était le discours économiste, au sens Nicolas Bavrès du terme, au sens Jacques Marseille du terme. C'est-à-dire ceux qui prennent la situation économique et qui essaient de la ramener à une essence pour essayer de dire « voilà ce qui risque d'arriver à l'avenir ». Et il me semblait que ces deux discours, qui sont deux discours à forte connotation pessimiste. Je me répète, mais je le pense sincèrement, à la fois parce que ce sont des discours qui appellent à la réforme, et donc pour appeler à la réforme, au fond, ils ont tendance énormément à noircir le tableau. Donc moi, ce que je voulais, c'était donner au lecteur quelque chose d'un peu plus objectif en termes méthodologiques. C'est-à-dire, je pouvais être pessimiste, à la limite, en termes de méthode, mais il fallait qu'au moment de l'exposé, je mette ça de côté et que j'essaie de proposer des choses qui ne sont ni de la simple économie, ni uniquement de la diplomatie, de la stratégie. Et entre les deux, il y a énormément de choses. Entre les deux, il y a quoi ? Il y a toute la vie des hommes. Toute la vie des hommes, tout le fonctionnement des sociétés, toutes les routines, tout ce qui organise la société et auquel nous ne prenons plus garde. Mmh. Vous avez parlé de l'information, c'est assez typique. Nous sommes baignés dans l'information. De temps en temps, il y a un petit scandale sur tel journaliste qui a fait telle fonction, telle chaîne de télévision qui a racheté tel ou tel journal. Enfin, un petit événement, j'allais dire secondaire, mais nous n'y pensons plus en tant qu'élément qui peut éventuellement fabriquer une partie de notre avenir. Donc, premier exemple, le droit. La judiciarisation, c'est un élément tout à fait fondamental, sur lequel de temps en temps on s'arrête, mais la plupart du temps, nous oublions que ça fonctionne. Nous oublions que ça fonctionne de manière internationale. Nous oublions que ça se fonctionne avec des processus d'imitation d'un pays sur l'autre. Nous oublions que le droit, lui aussi, est amené à penser sa rationalisation, donc son efficacité, donc son automatisation, donc sa standardisation, donc tout un système de législation qui est en train de se construire et qui va durer dans le temps, très longtemps. Mmh. Le rapport à la nature, voyons bien, là, on sort du Grenelle de l'écologie, si on veut ramener ça au contexte étroit où nous sommes en France, eh bien, nous voyons bien que la question de la nature, du rapport à la nature, du rapport à l'animal, est en train de changer totalement de manière, de conception. Donc, il me semblait voilà, qu'il y avait la place pour essayer de trouver de nouveaux dossiers, de donner au lecteur des éléments pour penser son actualité dans la durée et dans ce qui peut advenir.
Alors bon, tout de même, vous commencez votre ouvrage par le fait politique et le fait géopolitique, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le premier que vous mentionnez, c'est 1989, donc la chute du mur de Berlin. Mais vous ne vous cantonnez pas à 89. Oui, à 89, mais il y a aussi 1990 et 1991. Rien que sur le communisme, et ces trois dates sont tout aussi importantes les unes que les autres.
Oui, c'est-à-dire que selon l'angle d'attaque, et ça c'est très intéressant quand on regarde les articles de presse, quand on regarde les productions scientifiques, le choix des dates n'est pas innocent. C'est-à-dire que ceux qui vont prendre 89 vont le faire très souvent en voulant insister sur le caractère spontané de l'effondrement du communisme. presque une dimension libertaire. Ceux qui vont choisir, au contraire, 1990, vont vouloir insister sur la destruction de l'Empire soviétique, c'est-à-dire les États satellites. Et puis ceux qui vont prendre 91, eh ben c'est pour dire quoi ? C'est pour dire, regardez, même en URSS, le communisme s'est effondré. C'est dire à quel point le communisme était une idéologie malsaine et mauvaise. Donc, c'est-à-dire qu'en son principe, il nécessitait, il allait à sa propre destruction. Donc, c'est effectivement, on peut interpréter comme ça. Mais le jeu que je voulais jouer aussi dans le livre, c'était ne pas avoir un discours géopolitique, ne pas avoir un discours économiste, mais essayer de tenir le pari d'une histoire mondiale. Donc, si on sort d'Europe, quels sont les moments qui peuvent être importants et sur lesquels on pourrait focaliser une notion de fin de siècle ?
Voilà, parce qu'immédiatement après avoir abordé la question du communisme, vous posez celle du Moyen-Orient, mais vous posez aussi celle de l'Afrique, vous posez aussi celle de l'Inde, du Japon, etc.
Et c'est ça qui est très frappant. C'est qu'en gros, entre 85 et 95, on pourrait même réduire encore. Entre 87 et 92, on pourrait même réduire encore. Entre 89 et 91, sur tous les continents, c'est incroyable la concentration d'événements qu'il y a dans ces quelques années. Je pensais par exemple à 89. 89, pour nous, en Europe, c'est considéré comme le moment où le mur de Berlin s'effondre en novembre. Mais rappelez-vous, au printemps. Au printemps, nous, en France, nous sommes en train de regarder le tennis à la télévision. C'est quoi ? C'est Roland-Garros. Mais qu'est-ce qui se passe en Chine ? En Chine, c'est la place Tiananmen. C'est-à-dire que cet événement considérable, qui est pratiquement un soulèvement, est venu d'abord de Chine avant qu'on en ait la concrétisation en Europe. Donc, événement tout à fait important qui a entraîné des arrestations, qui a été, je pense, du point de vue de la conscience politique des opposants chinois, tout à fait fondamental. Bon, si on regarde en Inde, on a l'assassinat de Rajiv Gandhi. Si on regarde en Afrique, il y a plusieurs événements. Il y en a un, moi, qui me frappe. Alors, on peut le lier, effectivement, à la fin du communisme en se disant, ben voilà, il n'y a plus cet enjeu géopolitique. Donc, c'est ce qui explique que ça peut changer. Mais l'Afrique du Sud, en 91, qui met fin à l'apartheid, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Il faut se souvenir de ce que c'était les années 80, la façon dont, en Europe, aux États-Unis, il y a une montée des critiques contre l'Afrique du Sud, il y a une véritable focalisation sur cette question-là. Donc, voilà, essayez de penser un petit peu les différentes zones, la façon dont ce moment-là signifie, pour des motifs divers, pas seulement à cause de la fin du communisme, signifie quelque chose comme un basculement, un changement d'époque.
À l'occasion de vos recherches, bon, il y a une biographie très touffue, très intéressante, relevant aussi à la fois de l'histoire, de la philosophie, de la pensée. Mais au cours de vos recherches, vous avez été en contact avec des étrangers pour discuter de toutes ces notions.
Oui, alors c'était un des paris du livre. L'un des paris du livre, c'était d'essayer de faire, lorsque nous appelons à l'IHTP, à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, ce qu'on appelle une histoire partagée. Donc essayer de discuter et de fabriquer l'objet de ma recherche avec des gens qui avaient d'autres préjugés que les miens. Donc, avec des gens qui étaient d'une autre culture nationale que la mienne. Alors, il y en a quelques-uns comme ça qui me reviennent. Moi, je me souviendrai, par exemple, de Félix Sirocco. Félix Sirocco, c'est l'un des plus grands historiens d'Afrique de l'Ouest. Il travaille au Bénin, à l'université du Bénin, donc à Cotonou. Et Félix Sirocco, donc, je lui posais des questions sur les minorités. Alors, évidemment, moi, j'avais en tête une histoire des minorités qui, en Europe, n'est pas encore complètement écrite, et au contraire, est même un des objets du débat, puisque c'est toute la question de savoir si on peut faire une histoire particulière, quelque chose comme du communautarisme, ou si on peut lier cette histoire des minorités à l'histoire nationale française, donc recomposer un récit national. Et lui, il me regardait, il était assez amusé par ce type de questions, parce qu'il me dit, mais enfin, Fabrice, l'histoire des minorités en Afrique, elle existe dès les indépendances. Et évidemment, c'est au cœur du débat après les indépendances, donc dès les années 60, il y a la question de savoir, comme on a des États pluriethniques, des États avec différentes populations qui peuvent même être à cheval sur les frontières, il y a cette espèce de culture de minorité qui s'installe et qui est l'objet de réflexion, d'attention. Et il me semble que là, nous avons beaucoup à apprendre. Sur d'autres aspects, par exemple, en géopolitique, on pense beaucoup à la Corée. La Corée, Taïwan, le Japon. Là, on discute avec les historiens japonais. C'est très intéressant de voir comment les historiens japonais ont une vision beaucoup moins catastrophiste que nous de ce qu'est la Corée du Nord. Alors que nous avons tendance à penser la menace nucléaire, nous avons tendance à suivre un petit peu cette actualité. Eux sont installés dans une durée de relations qui ont commencé dès les années 1880. Donc, une autre perception du temps et une autre perception des relations entre États.
Alors, il y a une perception du temps, justement, que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est notre rapport vis-à-vis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous sommes sortis du communisme en 89 et finalement, le communisme en 89 était attaché au totalitarisme tel qu'ils ont émergé au début du siècle et qui ont trouvé leur apogée avec cette Deuxième Guerre mondiale. Nous en sommes sortis de cette ère des masses.
Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit sorti complètement de l'ère des masses, mais ce qu'il y a de clair, c'est que partout, on voit monter la question de l'individuation, c'est-à-dire la question de la définition de soi par rapport à des collectivités, que ce soit les minorités que j'évoquais il y a un instant, ou que ce soit au contraire des masses consuméristes, de consommateurs, ou des masses industrielles, de travailleurs. Et c'est vrai que ça ne concerne pas que l'Europe. On le voit aussi en Afrique, dans les modes de consommation. On le voit en Asie. C'est très frappant en Asie. On le voit en Amérique latine. Vous me direz, là, il y a une tradition un peu différente. Donc, si on fait une espèce de tour de la Terre, on a vraiment le sentiment que les manières d'être, la façon de se définir par rapport à des petits groupes, par rapport à des pratiques bien définies, eh bien, sont en train de se généraliser. Et ça, je trouve ça tout à fait intéressant.
Par rapport toujours à la Deuxième Guerre mondiale, vous citiez tout à l'heure Fukuyama, justement, qui annonçait la fin de l'histoire et le triomphe d'un système, le système libéral. Mais très vite, on s'est aperçu que Fukuyama avait tort.
Je ne sais pas s'il avait tort au sens philosophique du terme, parce que c'est faut aussi bien penser que le livre de Fukuyama, nous, on l'a réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, puisqu'il n'y avait plus d'adversaire dialectique au libéralisme, eh bien, il n'y avait plus d'histoire. Il y avait ça dans sa logique, mais il y avait aussi l'idée qu'il y avait dans le libéralisme même un certain nombre de contradictions qui étaient encore en train de se jouer et qu'il y avait par ailleurs d'autres rythmes des sociétés qui n'avaient pas suivi le même rythme que le monde occidental et qui pouvaient donc se retrouver face au même soubresaut. Donc, je pense qu'en fait, là où Fukuyama avait tort, c'était de penser que, à la limite, le libéralisme n'engendrerait pas à nouveau une idéologie de contradiction. Il y en avait plusieurs qui étaient possibles. Bon, celle sur laquelle on insiste le plus en ce moment, c'est éventuellement l'idéologie du radicalisme religieux. Bon. Mais il me semble qu'il y avait quand même d'autres logiques qui auraient pu prévaloir, des logiques de groupe économique, des logiques de zone géographique qui pouvaient entraver, disons, les principes de la société libérale. Sur la Deuxième Guerre mondiale, si je peux revenir là-dessus, ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir comment progressivement ce que nous avons considéré comme le cœur du XXe siècle a changé. C'est-à-dire que si on se place dans les années 60-70, le cœur du XXe siècle, on en est sûr, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que tout s'est joué. Mais si on se place après 89-90 et qu'on va notamment en Europe de l'Est, le cœur du XXe siècle, c'est plus la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale. C'est là, d'après les gens d'Europe centrale et d'Europe du Sud, méridionale et orientale, c'est là que s'est joué le grand étouffoir des nations. Au fond, ce qui a permis la mise sous tutelle soviétique. Et donc, c'est très intéressant de voir comment, au fond, l'effondrement du communisme, la montée des nationalismes, a permis de reconstruire un autre XXe siècle qui n'est pas celui du génocide, qui n'est pas celui de la guerre mondiale, mais qui est celui, au fond, des nationalités. Et ça, à la limite, c'est une variante, je crois, pas à la limite d'ailleurs, c'est une variante très importante à avoir en tête quand on veut penser l'avenir de l'Europe et le XXIe siècle.
Alors, il y a un phénomène, vous évoquiez la Première Guerre mondiale, il y a un phénomène à la veille de la Première Guerre mondiale, disons 10 ans ou 5 ans même avant la Première Guerre mondiale, c'est un monde sûr de lui-même, hein, dont l'incarnation est un peu le fameux bateau Titanic. Et malgré, à la fin du XXe siècle cette fois, malgré le mot de Fukuyama, on a un monde qui a plutôt peur de lui-même. Vous décrivez tout ce sentiment qui est développé, tous ces sentiments qui sont développés, notamment dans le monde médiatique. Il y a quelques jours, j'entendais Luc Ferry sur Radio Classique qui évoquait ses peurs et un mot, une expression que l'on retrouvait de plus en plus. Au départ, on parlait de « il faut sauver les bébés phoques », maintenant « il faut sauver tout le monde », »,« il faut sauver la planète », »,« il faut sauver les retraites », comme si on arrivait au sentiment ultime de la peur juste avant la mort.
Il y a effectivement, ça c'est une chose qui me frappe aussi, il y a effectivement une manière d'écrire qui est très, enfin, de manière d'écrire et de parler, hein, dans l'espace public, qui est très marquée par la peur du lendemain. Je crois que la chose qui m'a beaucoup amusé, c'est cette expression qui dit « Nous sommes la première génération qui donnera moins à ses enfants que ce qu'il y avait avant. » On fait comme s'il n'y avait jamais eu la peste, comme s'il n'y avait jamais eu le choléra, comme s'il n'y avait jamais eu de guerre qui avait réduit la population de l'Europe. Enfin, rappelez-vous, au XIVe siècle, hein, la grande peste, hein, la peste noire, en gros, c'est un tiers de la population européenne qui rayait la carte. Donc, il faut aussi ne pas regarder l'actualité avec en permanence cette idée-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a oublié à quel point, au moment de la guerre froide, la même peur était présente. Mais enfin, rappelez-vous, aux États-Unis, dans les années 50, qu'est-ce qu'on fait à la fin des années 50 ? Il y a des entreprises qui fabriquent des petits bunkers pour la famille. Donc les gens sont en train de construire leur petit abri anti-nucléaire. On envoie des consignes en France, encore des années 60, pour préparer la défense antiaérienne et que les gens puissent se réfugier dans les caves. Et enfin, qui parmi nous n'a pas eu un grand-père ou une arrière-grand-mère ou une grand-mère qui ne stockait pas des boîtes de conserve ou du sucre en se disant « on ne sait jamais ». Donc vous voyez, je pense qu'on a oublié, on a un peu occulté ces comportements. Et de la même manière, aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup, mais en même temps, fait tout simple, que recanalyse l'historien, la durée des crédits immobiliers augmente.
C'est-à-dire qu'on croit en l'avenir.
Voilà. Alors, pour vous rassurer pleinement, selon les pays, en France, avant, on ne pouvait emprunter que sur 10 ans. Puis on est passé à 15 ans. Maintenant, on est à peu près à 30 ans. Je ne doute pas que nous passions à 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, c'est un siècle. Et en Suisse, c'est un siècle.
Et les banques ont eu peur pourtant du bug de l'an 2000.
Les banques ont eu peur du bug de l'an 2000. Elles ont toujours l'inquiétude par rapport à ce qu'elles appellent les bulles spéculatives. Et elles sont aujourd'hui encore inquiètes par rapport aux monnaies, et notamment à l'état du dollar. Ça, c'est vrai.
Mais c'est un petit clin d'œil. Hein. Ces banques, comme tout le monde, hein, nous avons eu peur du bug de l'an 2000, pourtant qui n'a pas eu lieu. Et comment un monde si sûr de lui sur le plan technologique a pu se focaliser sur un fait aussi bénin ?
Mais je crois que ce n'est pas anodin que ce soit sur la technique, que ce soit focalisé. Moi, il y a une chose, alors je saute un petit peu, là j'en viens à des arguments qui ne sont pas exactement dans le livre, parce que j'avais peur qu'on me taxe de légèreté. Mais enfin, je suis quand même frappé que si vous regardez la consommation française en ce moment de feuilletons, ce sont des feuilletons où on vous parle de quoi ? D'experts qui, avec un petit bout de cheveux, un petit morceau de salive ou un morceau de peau, vont pouvoir reconstituer comment un crime a été commis. En gros, la technique est en train de devenir l'espèce d'instrument qui justifie l'existence. Comme si, au fond, on avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de nous en permanence. La technique s'occuperait de nous, la technique serait une espèce de nouvelle divinité qui nous permettrait d'exister, qui nous permettrait même, après notre mort, de résoudre la solution de ce qu'a été notre existence. Eh bien, moi, j'ai le sentiment que la peur qu'il y a eu juste à la veille de l'an 2000, la peur de ce bug de l'an 2000, cette inquiétude technique, au fond, c'était la peur du diable.
Fabrice d'Almeida, nous nous retrouvons dans un instant. Je reçois Fabrice d'Almeida, auteur du livre « Bref, histoire du XXIe siècle » paru aux éditions Perrin. Et nous réfléchissons donc sur la mort du XXe siècle, la naissance du XXIe siècle. Alors, nous avions laissé nos auditeurs avec cette idée de peur. L'idée de peur était très présente, évidemment, au moment du 11 septembre. Mais, j'allais dire, l'effet de balancier, en quelque sorte, pour contrecarrer cette peur, on cherche des clés d'explication du monde. Et alors, on parle de globalisation, on parle de choc des civilisations. Évidemment, tout cela, ce sont des concepts assez simples et réducteurs.
Alors oui, non seulement réducteurs, mais surtout pas gratuits idéologiquement. Parce que, en gros, c'est ces deux explications que vous avez mentionnées, hein, d'une part la mondialisation et d'autre part le choc des civilisations, au fond la guerre entre Orient et Occident. Au fond, ces deux manières de lire le monde ne sont pas défendues par les mêmes personnes et ne produisent pas les mêmes conséquences en termes de logique politique. Alors, si on prend le choc des civilisations, partir du moment où on admet qu'en quelque sorte, il y aurait un affrontement symbolique entre Orient et Occident, à ce moment-là, on doit se renforcer, mener des politiques d'action culturelle volontariste, des politiques militaires, d'invasion, etc., etc. Bon, première option. On peut dire l'option néoconservatrice de Bush qui a eu les effets qu'on connaît et qui, même maintenant, aux États-Unis, n'est plus très en vogue, on va dire. Même une partie des républicains y a renoncé. Donc, première option. Deuxième option, l'option globalisation. L'option globalisation, alors, j'allais dire, il y a deux faces. Il y a la face de ceux qui sont dedans. Alors, pensez la globalisation, par exemple, pour le groupe Carrefour. Le groupe Carrefour, eh ben, il va penser la globalisation en se disant, voilà, j'ai des approvisionnements. Je devrais peut-être pas dire une marque comme ça, mais voilà, j'ai des magasins à fournir, j'ai des denrées à trouver. Donc, il met en place tout un système de logistique. Donc, il doit avoir des accords, il doit avoir des lignes de transport, etc. Donc ça, c'est les gens qui sont vraiment dans la globalisation au sens production et distribution du terme. Et puis, il y a ceux qui utilisent le plus ce terme-là, au fond, ce sont ceux qui sont contre. Ce qui est très intéressant, au fond, c'est que la globalisation, c'est un concept relativement ancien. Première occurrence, c'est dans les années 50. Et en fait, c'est utilisé en stratégie pour parler de la façon dont on intègre l'ensemble des variables pour analyser une stratégie. Donc, on fait une analyse globale. Et puis, au fond, ce mot va être passé dans le langage économique au fil des années, en particulier les années 60 et 70. Et puis, dans les années 80, il va trouver une application lourde avec l'unification de l'ensemble des systèmes boursiers mondiaux. Bon. Entre 84 et 87, entre les États-Unis et l'Europe. Bon. Ça, c'est le moment où on peut dire qu'on est rentré dans un espace financier global. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on va le plus parler de globalisation. Le moment où on va le plus en parler, c'est à partir du moment où il va y avoir un certain nombre de gens qui vont s'insurger contre ce système-là, s'insurger contre la spéculation, et qui donc vont devenir les no-globales, les anti-mondialisation, les alter-mondialistes. Bon. Trois faces d'un même mouvement qui se renforment dans les années 90. Dès 94, ils sont là. 96, ils sont tout à fait forts. 98, 99, 2000 avec Seattle, puis 2001 avec Porto Alegre. Et là, vous voyez, c'est la montée de l'opposition à la globalisation qui fait que le terme de globalisation prend un sens. Et prend un sens militant pour ceux qui veulent s'opposer au processus d'arasement de la planète.
Mais alors, Fabrice, peut-on écrire une histoire universelle en faisant fi, j'allais dire, de ces concepts qui sont malgré tout réducteurs?
Non, je ne crois pas qu'on puisse et je ne crois pas qu'on doive. C'est-à-dire qu'on est bien obligé, si on veut faire une histoire là, si j'ai fait la tentative et je les ai insérés en les montrant aussi comme des représentations. C'est-à-dire comme une manière de décrire le réel qui n'est pas anodine, qui n'est pas gratuite. C'est mon travail d'historien de faire ça, de faire ce travail de critique. Mais je reste convaincu qu'on est obligé, pour faire une bonne histoire, de faire à la fois une histoire des pratiques, une histoire matérielle et aussi une histoire des représentations et donc une histoire spirituelle.
Alors, arrêtons-nous sur une de ces histoires et particulièrement sur un phénomène que vous expliquez, c'est la patrimonialisation du monde.
Alors, il y a deux sens à ce mot. Patrimoine, ça a deux sens. C'est à la fois les biens qu'on possède et puis en même temps, c'est bien le patrimoine au sens monuments historiques du terme. Donc, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a de pair les deux processus qui se conjuguent, à la fois un monde qui est de plus en plus un monde objet, un monde chosifié, et en même temps un monde dans lequel on essaie de préserver de plus en plus l'état dans lequel on se trouve. Et l'une des incidences de cette logique-là, c'est que les individus, de plus en plus, se définissent et s'attachent aux objets pour se définir. Et donc, partant, transforment les objets qui peuvent paraître anodins en objets de patrimoine au sens historique du terme. Et donc, ça conduit, c'est une des idées auxquelles j'arrive dans le livre, ça conduit un peu tout le monde à devenir historien. Historien de soi, historien de ses objets et historien, au fond, du rapport que l'on a avec les objets, avec les choses.
La profession a du souci à se faire ?
Non, parce qu'au fond, c'était le discours pendant un moment de dire, au fond, si tout le monde devient historien, il n'y aura plus de travail pour les historiens. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense que pour que cette définition de soi à travers les objets, à travers l'histoire, pour que cette reconnaissance de soi à travers l'histoire fonctionne pleinement, il faut à un moment ou à un autre se confronter à un principe de vérité. Donc, se confronter à un certain nombre de personnes et de gens qui tiennent un discours qui est fondé sur le vrai, pas sur le juste, sur le vrai. Et ce vrai-là, il suppose un investissement considérable en temps et en énergie. Et ça, je crois que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, je pense au contraire qu'il y a peut-être moins de dignité au sens éminent à être historien aujourd'hui, mais par contre, il y a une réelle utilité.
Alors, tous historiens, il y a un autre phénomène, c'est tous journalistes.
Oui, alors ça se vérifie déjà. Ça se vérifie déjà, et j'allais dire, dans ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté, tout le monde se fait un petit peu journaliste en essayant de repérer les événements qui les intéressent, et puis ensuite, tout le monde participe un peu aux médias aujourd'hui. Je ne vais pas prendre mon propre exemple, mais c'est un petit peu ça quand même. On vient porter sa vérité dans les médias. Alors, il y a tout un tas d'émissions. Ce n'est pas des phénomènes si récents. C'est ça qui me frappe aussi. C'est qu'on a tendance à vouloir les lier uniquement à Internet. Mais je vous rappelle que les grandes émissions, justement, où le public intervient, commencent déjà dès les années 70, fin des années 60, début des années 70. Je ne vais pas vous faire SVP 1111. Je ne vais pas vous faire Le Téléphone Sonne, qui est aussi une vieille émission. Mais il y a cette dimension-là de participation du public qui va en se renforçant. Et alors, il y a, je crois, un pas qui est franchi à partir du moment où la participation de tous et de chacun à Internet permet, grâce au moteur de recherche, au fond, de se composer le journal de ses propres passions. Et donc, à ce moment-là, c'est tout journaliste au sens où nous ne voulons plus regarder que ceux qui nous intéressent.
Alors, est-ce que ce phénomène n'est pas, au fond, une sorte de revanche ou de retour de l'individu, l'individualisation, par rapport, encore une fois, à l'ère des masses dont nous parlions tout à l'heure?
Je crois que c'est un franchissement de seuil, pour dire les choses telles que je les pense. Je pense que si on fait une histoire de l'individualisme, l'individualisme ne se compose pas une fois pour toutes. Il a différents moments. Il y a eu une première étape, je pense, au cours du 19e siècle, où la définition de l'individu passait avant tout par la question de la maîtrise de son destin économique. Il y a un moment au milieu du 20e siècle où cette question de l'individualisme passait par non seulement une capacité économique, une relative indépendance économique, un salaire, mais en même temps la possibilité d'exercer pleinement ses droits politiques. Et je crois que maintenant, on est arrivé à un nouveau stade, à un stade supplémentaire, sur lequel jusqu'à présent, les États avaient peiné à légiférer, mais où on voit que désormais, ils interviennent de plus en plus, qui est le niveau des mœurs et de la vie privée. Et c'est ça qui me frappe, c'est que nous sommes arrivés à maintenant à un moment où la définition de l'individu passe moins par la question de son appartenance politique que par la définition de ses goûts, de ses passions et de ses choix personnels. En d'autres termes, définir un individu au 19e siècle, c'est par exemple dire il est ouvrier, il accomplit telle tâche, vous voyez, économique. Il est patron, il est cadre, il est technicien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté catégorie socio-professionnelle qui repose très largement sur des niveaux de revenus. Au milieu du 20e siècle, on pourrait dire il est communiste, il est fasciste, il est nazi. Vous voyez, on est dans les années 40, 50, on a ces catégories qui sont dominantes. Et puis à la fin du 20e siècle, ça donne quoi? En Occident du moins, ça donne... C'est une lesbienne, il est noir, il est homosexuel, il est indépendant, il aime le patinage artistique, c'est un footeux ou c'est un rugbyman. Ce que je veux dire par là, c'est que la définition des identités personnelles est devenue beaucoup plus complexe. On a presque une accumulation de logiques d'individuation qui s'est effectuée au cours des deux siècles.
Alors pour montrer quand même, la réflexion est très complexe et votre ouvrage vraiment offre de multiples pistes de réflexion et vous invitez d'ailleurs le lecteur à terminer l'ouvrage. Vous pensez même, malgré ce mouvement d'individualisation, vous pensez même au monde sans l'homme, au monde déshumanisé et vous pensez surtout à toutes ces idées autour de l'écologie où finalement on se rend compte de l'impact que peut avoir l'homme sur la nature et ce que serait donc la nature sans l'homme.
Alors, je ne dis pas le monde sans l'homme, je dis une histoire sans les hommes. Parce que l'idée qui est la mienne, c'est qu'il y aura des hommes, mais il y aura des hommes qui écriront une histoire qui ne sera pas une histoire, j'allais dire, humano-centrée. Parce que la question qui se pose, alors pourquoi je dis ça? Ce n'est pas qu'une boutade, ce n'est pas qu'une provocation. Ce que j'essaye de pointer ici, c'est le fait que de plus en plus, le droit, la judiciarisation, reconnaît à un certain nombre d'acteurs que jusque-là on considérait comme des choses, un certain nombre de prérogatives juridiques. Alors, soit parce qu'il y a des questions de parc naturel, soit parce que... Mais je vais prendre un exemple simple, les animaux. La maltraitance animalière, pendant longtemps, n'existait pas. Ce n'était pas un concept. On a le droit de casser sa tasse. Vous êtes d'accord, vous avez une tasse de café, elle ne vous plaît pas, vous pouvez la casser. Vous êtes russe, vous avez une certaine tradition, quand vous buvez de la vodka, vous jetez le verre, vous le cassez. Bon, on avait le droit de faire ça avec ces animaux. Votre vache ne vous plaisait pas, une balle dans la tête, c'était tout simple. Votre chien, pareil. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, vous laissez votre chien enfermé dans une voiture, vous pouvez avoir une contredanse pour maltraitance animalière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a doté les animaux de droits. Partant de là, à un certain moment, on va en arriver à avoir une lecture subjective du monde du point de vue des animaux, puisqu'il va falloir évaluer les degrés de souffrance. Et j'allais dire, on est déjà en train de marcher dans cette logique-là. Il y a déjà des procès. Il y a un procès qui m'a beaucoup intéressé. Je laisse de côté le côté émotion, hein, mais l'ours Melba, tué par un chasseur. C'est intéressant ce cas-là, parce que quand le procès a lieu, on fait le procès du chasseur comme on fait le procès d'un tueur. Et c'est à lui de montrer qu'il est en situation de légitime défense. C'est-à-dire qu'on partait du principe que, a priori, l'ours ne lui aurait pas fait de mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le renversement de logique que c'est par rapport au 19e siècle. On est complètement dans autre chose. Et on retrouve peut-être une certaine conception, au fond, dans laquelle l'homme n'est qu'un élément de la création parmi d'autres. J'allais dire, toute la dimension exceptionnelle de l'humanité qui a été construite par le 17e, le 18e, le 19e siècle, on pourrait... Vous savez, c'est cette idée de Descartes, qui est une idée extraordinaire, hein, le cogito. Je pense. Et il le dit tellement bien que derrière lui, tout le monde va penser « il n'y a que nous, les hommes, qui pensons ». Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on vous raconte, quand vous lisez des livres d'éthologie, on vous explique qu'il y a une culture animalière. Et on vous donne une définition de la culture qui repose sur le jeu et sur un certain nombre d'actes qu'effectuent des animaux qui ne sont liés ni à la reproduction, ni à la survie. En tout cas, pas directement. Donc, on pourrait de la même manière analyser nos comportements de cette manière. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de la culture, hein. Ni la reproduction, ni la survie. On n'est pas particulièrement menacé dans ce studio. Donc, voilà. Il y a cette idée que désormais, on va devoir écrire pour des raisons juridiques, je pense au départ, hein, parce que l'histoire est intimement liée aussi à la discipline juridique. Elle a souvent progressé parce qu'il y a eu des grandes causes, hein, parce qu'il y a eu des grands procès, donc parce qu'il y avait le besoin d'affirmer de nouvelles catégories juridiques. Donc, je pense que nous sommes parvenus à un moment où on peut imaginer que dans quelques temps, on devra écrire l'histoire de la forêt canadienne du point de vue du caribou. C'est pas qu'une blague.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, et ça sera une de mes dernières questions, comment concevez-vous l'histoire demain, j'allais dire, dans les 30 prochaines années, comment va-t-on écrire l'histoire? Est-ce qu'on va rester finalement sur une logique classique, ou au contraire, nous allons retrouver ce type d'histoire que vous évoquez, où on donnera l'histoire de la forêt amazonienne par rapport au caribou?
Mais je crois justement, c'est ça. Ce qui est passionnant, c'est qu'on voit s'esquisser des pluriels. Et dans ces pluriels, on voit grosso modo qu'il risque d'y avoir, disons, au moins deux ou trois grands conflits de méthodes. Il va y avoir d'abord, j'allais dire, tout ce qui relève de l'histoire passion pour les citoyens. La généalogie, la définition de soi, l'histoire comme aide au développement personnel. Ça, je crois que c'est une chose qu'on va voir se développer de plus en plus. Et je pense même qu'à un moment donné, on va avoir une spécialité universitaire qui sera histoire et développement personnel qui va se mettre en place. Je suis à peu près convaincu de ça. Ensuite, il va y avoir, je pense, une histoire à forte teneur scientifique. Je ne parle pas que de l'histoire des sciences, là, hein, mais je veux dire une histoire qui se servira des sciences cognitives, de l'éthologie. Il y a une anthropologie cognitive qui existe déjà, et je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on va voir émerger une histoire qui aura les mêmes préoccupations, les mêmes logiques par rapport au fonctionnement du cerveau, etc. Et puis, il y a une troisième logique, celle que je viens de dire là, hein, c'est une histoire qui ne sera pas écrite, pardon, du point de vue des hommes, mais qui sera écrite d'autres points de vue, alors ça peut être du point de vue des choses, etc. Et je pense qu'il y aura des expertises pour ça, pour essayer en quelque sorte de mettre au jour d'autres manières de fonctionner, d'autres formes, c'est difficile à dire comme ça, mais d'autres formes de conscience.
Est-ce que, là je reviens vraiment dans l'histoire classique, est-ce que, vous allez me permettre un paradoxe, est-ce que l'histoire n'est-elle pas l'art d'oublier? Car au fond, de notre histoire, on n'en retient qu'une petite partie, et l'histoire est avant tout une abréviation.
L'histoire est une abréviation, mais je dirais pas que c'est... Alors, ça peut être... soit on dit c'est un art d'oublier, soit on peut dire c'est un art de se souvenir. C'est-à-dire que soit on prend la sélection historique de manière positive en se disant finalement, on en savait beaucoup plus, mais ce qui est déterminant à transmettre, c'est cette expérience-là. Soit eh ben, on considère que le tri ne se fait pas de manière volontaire et effectivement, c'est un art d'oublier et une façon de laisser tomber dans les geôles de l'histoire, dans les geôles du passé, énormément d'éléments de vie et d'existence.
Alors, quand j'ai ouvert votre ouvrage, la première question que j'ai notée, avant même de lire, c'est C'est une question simple, ma foi, ça sera ma toute dernière question. Est-ce que vous, Fabrice d'Almeida, auteur donc de Brève histoire du XXIe siècle chez Perrin, est-ce que vous vous sentez un homme du XXe ou bien du XXIe siècle?
Ben, c'est difficile à dire parce que je me sentais vraiment homme du XXe siècle. Je me sens encore homme du XXe siècle dans le sens où j'ai été vraiment imprégné par cette dimension de la Seconde Guerre mondiale, par cette présence extrêmement forte du génocide qui a été pour moi un horizon intellectuel tout à fait déterminant, et par cette question centrale de l'humanisme et de l'humanité. Donc, je crois que je suis encore très homme du XXe siècle, et c'est pour ça que j'ai dédié le livre d'ailleurs à une enfant qui a aujourd'hui 9 ans, qui s'appelle Marguerite, parce qu'elle, je crois que la façon dont elle grandit, la manière dont elle se situe n'est plus exactement la même que la mienne. Elle est très préoccupée, comme beaucoup des enfants d'aujourd'hui, de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est... Voilà. Elle a un rapport à l'animal, elle a un rapport à la pollution, elle a un rapport au monde qui n'est pas du tout le même que celui de ma génération. Donc, au fond, je me sens homme issu du XXe siècle, mais effectivement, je vis au XXIe siècle.
Mais vous ne le subissez pas.
En tout cas, j'essaie de le mettre à distance et de le regarder pour pouvoir échapper à mes servitudes.
Eh bien, merci beaucoup, Fabrice, d'être venu au micro
merci
de
à vous.
Canal Academy pour nous présenter donc votre brève histoire du XXIe siècle, un ouvrage paru chez Perrin. Et encore une fois, j'invite nos auditeurs à vous retrouver, Fabrice, dans la médiathèque de Canal Academy, à la recherche donc de tous ces portraits d'histoire, portraits d'espions, portraits des chefs nazis. Nous l'avions dit, vous êtes un spécialiste du nazisme, mais aussi les très beaux portraits des aventuriers du XXe siècle. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.